RMC Running, le cabinet de Seb Cornette.
Salut à tous, bienvenue dans le cabinet de Seb Cornette. C'est votre moment d'échange avec les meilleurs coachs de France, que ce soit Johan Durand sur la route ou Seb Cornette pour le trail, le fondateur d'École de Trail qui est en direct avec moi. Salut Seb.
Salut Benoît.
Comment ça va?
Écoute, ça va pas mal avec la chaleur. Moi, je suis un homme de chaleur, donc ça va parfaitement.
Je vais t'appeler le lézard alors. C'est toi le mec qui aime la chaleur.
C'est ça.
Ok.
Exact.
Magnifique. On te voit rouler sur Strava, donc tant mieux. Les kilomètres s'accumulent et c'est plutôt bon signe. Voilà.
C'est plutôt bon signe, exactement.
Vous connaissez le principe. Si vous préparez des trails, si vous êtes des amoureux de la course en nature, eh bien vous avez choisi le bon endroit. Vous adressez votre candidature à l'adresse mail suivante podcastrmcrunning@gmail.com. On l'étudie et on vous reçoit. C'est Romain qui sera avec nous dans un instant. Je remercie d'ailleurs toute la communauté RMC Running pour les notes et les commentaires sur les plateformes de téléchargement. Je prends mon cahier, j'ouvre la fiche de soins et on y va parce que Romain patiente en salle d'attente. Salut Romain.
Salut Benoît, salut Seb.
Sois le bienvenu dans le cabinet de Seb Cornette dans RMC Running. Comment ça va? Ah bah oui, on a compris, ça a sonné. On a ouvert.
Ah bah ça va super, ça, ouais, désolé, j'insiste un peu, ouais, désolé.
C'est bon, on est là.
C'est parce que j'ai pas dit salut Romain,
ouais,
c'est ça.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est bon, ça, j'aime la sonnette.
On relance gentiment.
Exactement. Ça va Romain, tout va bien?
Ouais, ça va, super, la forme, et vous?
Tu nous appelles de Limoges, hein?
Ouais, c'est ça, c'est pas une blague.
Ah, c'est un choix de vie, c'est ce que j'allais te dire. Ça, c'est fort quand même.
Ouais, effectivement, je disais, j'ai pas fait tourner la map monde en mettant mon doigt au hasard. C'est un choix de vie, effectivement, pour se rapprocher de la famille et avoir un autre cadre de vie. Bon.
Pourquoi tu cours, Romain?
Écoutez, vaste question. Au départ, je pense un peu comme beaucoup de gens, pour reprendre une activité physique après 10 ans sur Paris où je bossais pas mal et où je faisais plus du tout de sport, même si j'ai fait pendant une quinzaine d'années du foot. Et puis la volonté de changer, reprendre une hygiène de vie au moment d'emménager sur Limoges, perdre un peu de poids, etc. Parce que comme souvent, la course à pied, c'est ce qu'il y a de plus simple pour à caler dans les agendas, etc. Et puis en fait, ça a duré 2 semaines, l'histoire d'aller courir pour s'amuser. Et puis en fait, très vite, je me suis dit, bon, c'est quoi clairement les objectifs et les dossards à prendre. Et puis après, avec le temps, c'est devenu aussi un peu un aspect thérapeutique, le côté... un peu instinct primaire, courir, se dépasser, aller en sentier et pour un peu contrebalancer avec une vie qui, en tout cas pour ma part, est assise devant un ordinateur, à faire des réunions, des Skype, etc. Donc, c'est surtout se réancrer à des choses très basiques et très primaires pour ceux qui ont eu Born to Run.
Donc tu t'identifies à ça, à ce cap de course à pied. Limoges, c'est le terrain de jeu idéal? C'est de la nature, c'est des vallées, c'est la possibilité de courir en forêt?
Oui, forcément. Ouais, carrément, parce que c'est une région qui est assez préservée, qui est assez verte, qui, je pense d'ailleurs, est un berceau assez fertile sur plutôt en course sur route. Je pense qu'on a un bon bassin de coureurs. Peut-être pas le meilleur de France, mais on a quelques bons clubs avec plusieurs athlètes qui, sur 10 km ou même marathon, passent des barrières assez, assez importantes.
Ouais.
Mais pour le trail, ce n'est pas encore ça. Parce que pour le coup, je dirais que la plus grosse pente que je dois avoir, ça doit être une pente de 3 km sur laquelle je prends 300 mètres de dénivelé. Et pour faire ça, il faut que je roule 35 minutes en partant de chez moi.
Ah oui.
Donc, on a des forêts, mais on a des forêts pour faire 50 mètres de D+ sur une heure. Donc c'est bien pour préparer l'éco-trail ou la Saint-Élion, quoi.
Ok, c'est la forêt du Bois de Boulogne, quoi, à peu près, en termes de dénivelé.
Ouais, c'est ça.
Ok, reste avec nous, Romain, on va dresser ton CV de coureur.
RMC Running, le CV de coureur.
T'as quel âge, Romain?
Ouais, j'ai 35 ans.
Et tu cours depuis quand, alors?
Je cours depuis un an et demi, à peine. J'ai commencé fin 2024.
Uniquement du trail ou aussi de la course sur route?
Pendant 2 semaines de la route et puis après j'ai très vite été en sentier à m'entraîner un peu sur route, mais surtout quasiment même qu'avec des dossards trail.
Ok. Tu cours combien de fois semaine?
Je cours en moyenne 7 fois par semaine et après selon les objectifs, si c'est une prépa marathon comme ce que j'ai fait en début d'année là, ça pouvait aller à 9 fois. Et après, quand c'est que trail, ça reste à 7 fois par semaine parce que c'est des sorties un peu plus longues.
Ah ouais?
Ouais, c'est des sorties un peu plus longues quand c'est du trail.
Bah, je m'y suis mis sérieusement depuis un an, après avoir fait 3 mois à faire n'importe quoi. Mais après avoir fait 3 mois où j'ai fait n'importe quoi, on va dire que j'ai fait une année sérieuse.
Tu sais que le coach Shep Cornet va te sauter dessus si tu continues à faire n'importe quoi, donc j'espère que tu
Non, mais ça y est, tout ça est derrière moi, tout ça est derrière moi, je suis devenu quelqu'un de sérieux.
En termes de volume et d'heures d'entraînement par semaine, ça représente quoi?
Bah, ça représente entre, je dirais, entre 10h et 18h d'entraînement. Donc de manière routinière c'est 10 heures et puis après quand il y a des gros blocs et qu'on se rapproche des échéances, ça peut monter à 16-18 heures. Donc après ça fait du 100 km par semaine minimum et ça monte jusqu'à 150 km et 6000-7000 de D+ sur les grosses périodes quoi.
On est sur un gros coureur là Seb. Hein.
Ouais. On a... c'est limite pro là, élite, c'est cool ça.
Eh ouais,
ça
on a un sacré cas à étudier aujourd'hui. Est-ce que tu as des records perso dont tu es fier Romain?
Ben, en fait, pas vraiment, parce que comme ça fait que un an et demi que je cours, j'ai pas vraiment encore fait de course, je dirais, référence. Et puis en plus, j'ai pas vraiment de moyens de comparer. Donc je dirais que ce qui me rend fier, c'est plutôt le côté progression au quotidien, de voir la discipline que je mets, la progression qui est plutôt continue. Donc ça me rend, entre guillemets, fier, ou en tout cas, ça me crée de la satisfaction. Mais si je dois parler d'un élément peut-être plus tangible... cet hiver j'ai décidé de faire une prépa marathon pour travailler la vitesse justement sur une période où il fait froid et où on n'a pas forcément envie d'aller en sentier pour trouver de la neige. Donc j'ai fait un marathon à la fin de l'hiver qui est un marathon très réputé qui est le marathon de Montauban. Okay. Où j'avais pour objectif de faire entre 2,40 et 2,45 et au final j'ai fait 2,39. Donc je dirais que dans ma petite carrière je suis content d'avoir fait ça avec 2 mois de prépa.
C'est énorme, 2,39 sur marathon pour une première prépa et la première fois que tu affrontes la distance, bravo. Là, c'est une sacrée perf. Quelles sont les prochaines courses prévues?
La prochaine course, c'est une petite course de quartier qui aura lieu fin août. Donc normalement, je devrais être du côté de Chamonix pour une course qui s'appelle la TDS.
La TDS, oh là là, t'as pas choisi le format le plus facile en plus. Okay.
Non, mais j'ai essayé de prendre le format peut-être le plus beau.
Ouais, ça, c'est vrai. T'as Seb le spécialiste qui confirme. Voilà, la TDS, c'est magnifique. Comment tu es coaché, Romain?
Au quotidien, je suis coaché par un entraîneur qui s'appelle Pierre-Adrien Hiver, qui me suit à distance depuis Annecy, et en prépa mentale par Eric Lacroix.
Okay.
Et puis après, j'ai un suivi un peu plus ponctuel avec kiné-ostéo, un masseur sportif, une diététicienne nutritionniste. J'essaie d'aller chercher la connaissance un peu là où elle se trouve. Et puis, je suis coaché par ma famille, évidemment, parce que c'est quand même des projets de vie et de famille où il y a besoin d'avoir tout un tas de personnes prêtes à faire l'assistance de nuit et dans le froid ou de nuit et dans le chaud.
C'est un volume de pro et c'est un encadrement de pro. Là, on est bluffé par ton investissement dans.
Ça fait qu'un an que je cours, donc il me faut des gens plus intelligents que moi. Et puis, je lis aussi pas mal de choses. J'écoute des podcasts, dans l'AMC Running, mais tout ce qui va être trail scientifique de Clécy, le projet dont Seb fait partie, Zero to 100, ou Guillaume Millet, Anthony Berthoud. Voilà, on essaie de se documenter.
Vous aurez le détail de ce projet Zero to 100 rapidement dans l'AMC Running. Rassurez-vous, on va y dédier des épisodes. Rassure-moi, ton coach, il t'entraîne l'été aussi? Oui.
Ouais, okay. Bien sûr.
Bon, il se contente pas de la saison d'hiver, magnifique. Et quelles sont tes contraintes? Contraintes, c'est avec des guillemets, hein, mais familiales et professionnelles.
J'en ai pas vraiment parce que j'ai une famille qui me soutient à 100%, ma femme qui est à fond, ma fille qui est là pour m'encourager, mes parents pareil. Et côté boulot, en fait, je bosse à distance, en télétravail, je bosse dans les médias. Et pareil, j'ai un job qui me permet de m'organiser un petit peu comme je veux sur la semaine, donc qui me permet d'aller courir soit le matin, soit le midi, soit le soir. Je peux passer quelques week-ends en montagne si c'est nécessaire, donc là-dessus j'ai beaucoup de chance.
Média spécialisé ou c'est quoi le job exactement? Tu peux en parler ou pas?
Je travaille avec des créateurs de contenu, donc des collaborations entre les créateurs de contenu, les médias, dont certaines boîtes comme RMC, etc.
Ok, magnifique. Bah tu vois, on ne se connaît pas pourtant, tu me le certifies, hein, rassure-moi.
Ah non, je certifie, le monde est vaste.
Ok. Romain, sois le bienvenu dans RMC Running. Seb, on est bluffé par le profil là. Alors là, j'ai hâte d'entendre les conseils que tu vas pouvoir lui donner parce que... là, au niveau de l'encadrement, de la façon de s'entraîner, du volume, de la régularité, c'est bluffant.
Ouais, clairement, parce que j'ai pas la chance de connaître son entraîneur, mais je connais très très bien son préparateur mental, qui est quelqu'un que j'apprécie, et je crois que c'est réciproque avec Eric Lacroix. Quand j'entends tout son CV, je me dis, ce qui est cool là dans nos cabinets c'est que c'est des profils tous différents et que celui-là, il va être aussi très intéressant. Je m'en réjouis d'avance,
Ouais.
Romain. J'espère que cet entretien dans ce cabinet pourra t'aider parce que tu es déjà, en tout cas, au fait. Et si je peux, avant que tu nous fasses tes demandes, moi, te féliciter parce que quelqu'un qui s'y met avec autant de sérieux, ben, enfin, autant de sérieux, dans le sens où t'as dit discipline tout de suite, et ça, c'est vrai que c'est. Si on veut avoir des résultats, ne serait-ce que pour sa santé, hein. D'abord je vais parler santé, vous me connaissez tous là. Donc bah, c'est d'abord la fréquence, et donc on peut apparenter ça à la discipline, et puis te documenter et tout de suite vouloir te faire les choses sérieusement, c'est bien, c'est très très bien. Et puis bah, si on doit parler de niveau, pour un premier marathon, après quelques mois de course à pied en dessous et les 2h40, ça des notes en plus de l'investissement que tu y mets, un potentiel, semble-t-il, intéressant.
Exactement, avec une marge de progression énorme parce que tu es un jeune coureur, hein, 35 ans, 18 mois de course à pied, donc c'est assez bluffant. Quelle est
Ouais,
ta.
et
Vas-y, on
pour
va.
pas me faire trop, pour pas me faire trop bon élève, je veux quand même préciser que sur mes 3 premiers mois de pratique, donc fin 2024, entre septembre 2024 et décembre 2024, j'ai commencé à courir en me disant, allez, le week-end prochain, je vais faire 30 km dans la forêt. Donc en termes de progressivité, on repassera. Et c'est aussi sur cette période que je me suis dit, et si l'année prochaine, je m'inscrivais en mai à une course de 100 km et le mois suivant, en juin, aux 134 km de Saint-Jacques-Bas-UTMB.
Ah oui, d'accord.
Donc, bon, voilà, une fois de plus, hein, ces 3 mois qui m'ont coûté, alors pas qui m'ont coûté cher parce que je ne me suis pas blessé, mais où j'ai pas fait preuve de grande intelligence dans la pratique. Mais
Ok.
après, ça s'est amélioré, effectivement.
Ta dernière course disputée, c'est Saint-Jacques? Tu étais à Saint-Jacques le week-end dernier,
Non,
non?
c'est la Maxi Race,
À
donc il y a
Maxi
maintenant
Race,
2-3 semaines.
magnifique à Annecy. On y était d'ailleurs,
Ouais.
grâce à Robin Fréché, notre community manager, qui a été excellent comme d'habitude. Mais bah, tu t'es régalé dans conditions parfaites, cadre
Ouais, ouais,
magnifique.
ouais. Magnifique, j'avais fait la reconnaissance 3 semaines plus tôt sous la neige, je pense qu'il y avait 50 cm de neige. Donc c'est le concept de faire une reconnaissance où on ne reconnaîtra pas la course le jour où on y repassera.
Ça, c'est bon. Bah, c'est le trail.
Ouais,
C'est
oui, c'est
ça.
ça, c'est ça.
En fonction des conditions, c'est tout
Ouais,
change
magnifique.
et rien n'est pareil. Quelle est ta problématique principale, Romain, alors?
Ah, alors pour le coup, problématique, mais alors tellement pas original. L'inconfort digestif.
Aïe, aïe, aïe. OK.
Et ouais,
Très bien.
on y arrive.
C'est ta marge de progression, peut-être, sur ce.
Bah, en tout cas, c'est le facteur limitant aujourd'hui, parce qu'après, sur tout ce qui est physiologique, bah, il faut laisser le temps au corps de s'adapter. Donc là-dessus, je peux pas épuiser toute la musique, mais sur la partie nutrition et confort ou inconfort digestif, je pense qu'il y a des choses à résoudre plus vite pour des résultats à court ou moyen terme.
Seb, est-ce que tu peux nous rappeler les conseils de base justement pour régler cette problématique?
Alors, bah en fait, les conseils sont aussi nombreux que le nombre de parties de coureurs, parce qu'on est tous vraiment différents par rapport à certaines, comment dire, difficultés et au niveau alimentation et confort digestif. On a aussi, tu disais tout à l'heure que, en fait, au niveau physiologique, il fallait laisser le temps. Bah, j'ai envie de te dire que c'est à peu près la même chose sur la nutrition. Évidemment, il y a des grandes, grandes lignes qu'on doit connaître. Déjà, c'est premièrement, c'est d'essayer tout ce qu'on va utiliser le jour de la course ou le jour des compétitions, ben, en amont, faire des essais, mais toujours corrélé. Si il y a un conseil vraiment primordial, c'est toujours corrélé ce qu'on prend comme une alimentation. Corrélation avec l'intensité qu'on y met. Parce que souvent, quand on entend parler de nutrition, on oublie que les soucis digestifs, ils sont aussi liés à l'intensité, le stress qu'on crée sur le système digestif, justement.
Exactement.
Et celui-ci, il n'est pas le même que je sois en intensité basse ou en intensité haute. Et quand on voit que donc la première cause d'abandon sur ultra, c'est justement ces problèmes digestifs. On ne focus que sur cette partie-là. Mais, au demeurant, c'est souvent parce que l'intensité n'a pas été la bonne. Donc, c'est pas uniquement des problèmes digestifs, c'est aussi et surtout des problèmes d'intensité. Donc, bah, peut-être qu'on va interroger Romain
Ah oui,
là-dessus.
bien
Est-ce
sûr.
que c'est.
Romain, justement, parle-nous de ce problème dans les cas concrets, quoi. C'est en course, c'est
Ouais.
entraînement, c'est l'incapacité de t'alimenter lorsque tu fais un effort prolongé?
Ouais, bah, vous allez voir, j'ai un peu creusé le sujet, donc je fais vraiment appel à votre œil d'expert ensuite. Mais en gros, ça, pour l'instant, ça me gâche un peu les courses parce que j'ai jamais vraiment réussi à faire une course entièrement sans avoir d'inconfort, sauf le marathon. Mais c'était 2h39 d'effort, donc je pense que c'est aussi lié. Sur entre elles, j'ai jamais vraiment réussi et ça peut aller de je sens que j'ai un peu mal au ventre, donc je réduis l'alimentation et forcément ben, ça me porte préjudice dans l'heure qui suit ou dans les 2 heures qui suivent parce que ben, on manque d'énergie et ça peut évidemment aller jusqu'à des crampes d'estomac. Il faut s'arrêter 3, 4, 5, 6 fois, même sur la Saint-Élion, je pense que je me suis arrêté 5 fois. Et là, ben, vous les gars, fin, une fois de plus, hein, désolé de le dire, mais il faut s'arrêter sur le bord du sentier.
Ah
Et voilà quoi. Et
oui.
derrière, forcément, on ne se réalimente pas quand on vient de s'arrêter avec la diarrhée. Et comme on ne se réalimente pas, ben, en plus d'avoir perdu le temps durant lequel on s'est arrêté, et ben, en fait, on hypothèque aussi l'heure d'après, les 2 heures ou les 3 heures qui suivent, parce qu'on ne s'alimente plus. Donc en fait, mis bout à bout, c'est entre 20 et potentiellement 45 minutes de perdu sur une course,
Ah oui.
au-delà du déficit énergétique. Donc compliqué.
Parce que le problème, c'est d'être obligé de t'arrêter, c'est que ça déshydrate le corps aussi.
Complètement.
Et ça, pour la performance, ça nuit forcément, ouais, Seb.
Ah oui, ça nuit et puis l'énergie, on ne l'amène pas. Donc à partir du moment où on est en voiture et que on est en réserve, ben, il n'est plus possible d'accélérer. Et tu vois, je vais même aller au-delà du temps que tu perds, parce qu'en fait, le temps, il est, entre guillemets, hein, anecdotique, parce que peut-être qu'avec une autre stratégie, une autre alimentation, tu perdrais pas tant de, tu gagnerais pas, pardon, tant de temps que ça, mais c'est au moins, moi, ce qui me fait souci, c'est cet inconfort et donc l'exposition à un grand stress que tu imposes à ton organisme, qui pour l'instant, bah, ça passe, puis un jour ça passera pas, ou tu vas créer des déficits et des carences. Enfin, voilà, c'est plutôt ça, moi, qui me. À nouveau, je vois d'abord par le spectre de la santé, puis après on ira vers le spectre de la performance, parce que je pense que l'un et l'autre sont intimement liés. Mais effectivement, ce que tu. Et tu, ça arrive au bout de. Combien de temps cette donc tu parlais de marathon, sur le marathon c'était pas arrivé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en corrélation aussi avec l'intensité, ouais, même si évidemment l'intensité du marathon tu peux pas la mettre sur un ultra, on est bien d'accord là-dessus, mais à partir de combien de temps d'effort et ça arrive cet inconfort?
Ouais, ben ça c'est intéressant parce que quand je reprenais un peu les données là sur les dernières épreuves que j'ai faites, typiquement la maxi race, l'inconfort est arrivé vers au bout de 5 heures de course. Donc juste avant d'arriver au ravitaillement de mi-course, donc ça veut dire, comme c'est une course qui part de nuit, qu'en fait, entre 1h du matin et 6h du matin, bah, ça a dû arriver vers 4h. Donc une fois de plus, hein, est-ce que c'est lié à s'alimenter de nuit? Parce qu'on sait que le corps, il n'est aussi pas habitué, et c'est dur à l'entraînement au quotidien de se dire, bon, bah, je vais aller courir cette nuit pour m'habituer à manger de nuit. Mais
C'est
donc il y
surtout
a
ce qu'il
peut-être
faut
ce
pas faire
facteur-là.
d'ailleurs.
Voilà.
Surtout ce qu'il faut pas faire, s'il vous plaît.
Ah ouais.
Donc ouais, je rebondis sur ça pour que les gens qui nous écoutent, je sais que toi tu l'as pas fait, mais pour que les gens qui nous écoutent, ils se disent pas, tiens, j'ai une bonne idée, je vais aller courir de nuit.
Non, non, mais donc je ne sais pas s'il y a le facteur nuit aussi qui rentre en compte, parce que c'était le cas sur la Maxi Race et sur la Saint-Élion. Comme vous le savez, c'est aussi une course qui se court de nuit. Et là, l'inconfort, il est arrivé au bout de 3 heures. Donc globalement, c'est entre 3 heures et 5, 6 heures d'effort. Souvent, quand il y a des nuits, souvent quand il y a une course qui démarre de nuit. Et en fait, quand je regardais tout à l'heure les données, je me rendais compte que globalement, à Saint-Élion, sur les 50 premiers kilomètres, donc globalement 60% de la course, j'étais, alors désolé de rentrer dans le détail, mais à SV1, donc au premier seuil ventilatoire. Et sur la Maxi Race, j'ai fait jusqu'à la mi-course, j'étais aussi quasiment à SV1. Donc je pense que c'est trop rapide, notamment à la Maxi, parce que c'est des courses plus longues, alors que la Saint-Élion, c'est une course qui se court plus vite, donc c'est peut-être pas gênant. Mais je pense qu'il y a aussi un facteur lié à l'intensité, comme tu le disais, Seb, en plus peut-être du fait de la nuit. Et je pense que c'est toujours multifactoriel et qu'il n'y a peut-être jamais vraiment une seule raison à un inconfort, en fait.
Et si on creuse, est-ce qu'il y a un scénario qui se répète ou est-ce qu'il y a différents cas, différentes façons qui amènent ces crampes d'estomac et ces problèmes gastriques?
Bah ouais, je dirais c'est départ de course, on suit le plan de nutrition dès le départ en s'alimentant dès la première heure, en prenant des gorgées toutes les 15 minutes, un gel toutes les 30 ou 45 minutes. Et puis en fait, il y a de bonnes sensations. C'est aussi lié au début de la course. Donc on a sans doute un pacing qui est, bah, je pense comme tout le monde, hein, trop rapide sur les premières parties de course. Et je dirais qu'au bout de 3 heures, 4 heures, 5 heures, il commence à y avoir un petit, enfin, je pense que vous voyez un peu des gargouillements dans le ventre, un petit peu comme quand on sent qu'on va être malade sur des mauvaises périodes.
Ouais.
Et souvent, ça se traduit par une heure après, ouais, ben là, il faut que je m'arrête, quoi.
Est-ce que ça te provoque un stress psychologique au
ouais,
départ d'une
bien
course
sûr.
Est-ce que tu te dis, oh là là, je sais que ça va m'arriver, quand est-ce que ça va m'arriver ?
Pas très
Est-ce
bonne
que je
question.
pourrais m'arrêter ?
Ouais, ouais, ben j'en parle avec Éric Lacroix, justement, parce que au bout d'un moment, à force d'anticiper ce problème-là, il y a aussi un moment le mental qui en fait peut-être va lui-même créer le problème, alors que le problème ne se serait pas présenté de lui-même. Donc je dirais que c'est un peu un cercle vicieux
Bah oui.
dont je ne sais pas trop comment en sortir. Après, je relativise aussi en me disant que ça fait un an que je cours et que il faut aussi laisser du temps au temps, comme le disait Seb, et je vais peut-être trouver ma propre vérité ou les clés à ce problème. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, je ne les ai pas.
Seb, est-ce que tu as déjà connu ce type de problématique à régler avec tes athlètes?
Oui, c'est pour ça que je disais, que je me suis permis de reprendre Romain, parce que je pense qu'il y a aussi une adaptation. C'est un jeune coureur, alors il a fait 3 mois de la merde, et franchement, j'en connais qu'on commence et qu'on fait pendant 3 ans de la merde,
Ouais,
donc
voilà.
3 mois c'est plutôt raisonnable,
Ouais.
qu'après là il a commencé à se structurer, il semble être quelqu'un qui fait les choses plutôt sérieusement, on reparle de son staff, il a parlé tout de suite, moi ce qui m'a plu aussi beaucoup, c'est qu'il a parlé de sa famille. Mais du coup, et peut-être que Eric, qui est un ami, confirmera ça, peut-être que du coup, quand on met tout de suite aussi, on va dire, toutes les chances de son côté, ça peut venir mettre une petite pression. Et effectivement, il y a un très bon livre qui dit le deuxième cerveau, c'est notre système digestif. Et
Ouais.
peut-être qu'il y a quelque chose qui joue là aussi. Alors, je ne veux pas rentrer dans le domaine d'Eric parce qu'il a la chance de l'avoir, mais peut-être qu'il y a des choses, effectivement, qu'on arrive à se recréer. Maintenant, dans l'adaptabilité, il va falloir certainement qu'on ait du temps, que tu sois un peu plus patient. Par contre, tu as quand même bien identifié, et c'est pour ça que je suis heureux de t'entendre dire que ben, certainement sur la Maxi Race, c'est parti vite. Alors oui, de toute façon, que tous ceux qui nous écoutent se rassurent, sur un ultra, tout le monde part plus vite. Et en fait, c'est pas grave de partir trop vite. Ce qu'il faut, c'est réussir justement à ne pas se laisser embarquer par cette intensité. Donc, à quel moment le curseur je suis trop vite et donc du coup ça crée un stress oxydatif sur mon tube digestif et ce que j'apporte est en adéquation aussi. Alors peut-être avoir des stratégies. Est-ce que dans les deux cas que tu nous exposes, c'est-à-dire Maxi Race et Saint-Élion, c'était toujours avec les mêmes aliments? C'est quoi que tu apportes? Est-ce que c'est que du liquide? Est-ce que c'est des gels? Est-ce que c'est un peu de solide? Tu vois, ça aussi, c'est est-ce que ça te l'a fait avec différentes apports énergétiques?
Ouais, bah en fait, j'ai testé pas mal de choses. Hein. Pour la Saint-Élion, j'étais parti sur une base de 60 grammes heure, parce que j'en suis pas à un niveau où je peux accepter 90 comme le font certains. Mais déjà, 60 grammes, ce que la science semble dire accepté par le corps, c'est ce que j'avais pris avec un mélange de boissons d'effort dans une flasque qui est dosée à 60 grammes dans une flasque et l'autre flasque à l'eau. Et à côté, j'avais. Des gels pour faire l'appoint, en fait, plus après les ravitaux sur lesquels j'essaie de prendre un peu de salé, de la purée de patates douces, etc., pour couper un petit peu et éviter la lassitude gustative d'être que sur du sucré. Malgré ça, comme ça n'a pas marché, j'ai un peu revu à la baisse ma stratégie. Donc, du coup, pour la Maxi Race, j'étais parti sur un objectif de 40 grammes heure, donc ce qui est en dessous des recommandations, mais qui en même temps pour moi était sans doute plus acceptable ou accepté. Et là, j'étais parti sur un peu de boisson d'effort, mais que j'avais sous-dosé. Au lieu de la laisser à 60 grammes, je l'avais sous-dosé à 30 grammes dans une flasque pour que le goût de sucre soit encore plus faible. Et à côté, je faisais exclusivement compote et purée pour mettre de côté les gels qui ne passent absolument plus,
Ah
notamment
oui.
les gels neutres qui, en fait, m'ont amusé pendant 3 mois et puis, en fait, après, beaucoup moins. Et malgré ça, ouais, ça avait du mal à passer. Donc là, je suis un peu dans l'inconnu à l'approche de la TDS qui est maintenant dans un peu plus de 2 mois, mais de me dire, est-ce que je pars sur 40, est-ce que je pars sur 60? En réalité, sans doute plutôt l'adapter en fonction des différentes portions de la course où ça peut aller un peu plus vite, un peu moins vite.
Et puis
Et
là c'est même plus la même incidence là. Vu la difficulté de la TDS, alors je veux
c'est
pas
plus la même
rajouter du
blague.
stress, mais
C'est plus la même
c'est
blague.
un
Ouais.
facteur prépondérant, bien sûr.
Ouais,
Donc
ouais, ouais.
il faut tout faire pour régler cette problématique avant la fin du
C'est
mois d'août
ça.
et cette trace des Ducs de Savoie, Seb.
Ouais, puis tu me faisais une dédicace, Benoît. Pour moi, c'est la course la plus belle de l'UTMB. Hein. J'aime toutes les courses de l'UTMB, mais pour moi, c'est la plus belle parce que c'est la plus technique, la plus sauvage, mais aussi celle qui est, à mon sens, la plus difficile. Parce que t'as de la nuit, donc tout ce que tu vas aimer. Et puis après, tu as de la grosse chaleur parce que quand tu redescends. dans toutes les dans la vallée, la température que tu as subie à la Maxi Race, parce que j'y étais aussi, il va falloir y être confronté. Et ça aussi, ça a une incidence sur les apports énergétiques et la forme des apports énergétiques que je vais avoir. Et c'est vrai, effectivement, que là, tu me dis que, du coup, moi, j'ai un petit. Mais évidemment, avant d'aller plus loin, je refais de la pub au meilleur, qui est mon ami Anthony Berthoud, et qui serait certainement encore plus pertinent. Mais en tout cas, moi, presque, j'aurais envie de te dire, ce serait bien de faire un bilan. Parce que là, pour l'instant, tu as fait des choses un peu, si je l'entends, hein, par tes lectures, de manière un peu empirique. Mais peut-être qu'il faudrait faire un bilan bien complet sur
La
ton ta
tolérance.
stratégie,
Ouais.
et tes tolérances, exactement. Et ça, vu la façon dont tu as pris ton staff là autour de toi, c'est peut-être ce qui te manquerait. Et même, ne serait-ce que pas pour être performant, mais pour être justement éviter les inconforts. Donc, oui, la TDS, elle va avoir toutes les contraintes auxquelles tu as été confronté. Puissance 100, hein, parce que en plus c'est plus long et c'est plus technique. Donc, mais en même temps, comme tu l'as dit, il va y avoir des moments très rapides. Je veux dire, quand tu vas descendre le grand col avant d'aller sur Bourg-Saint-Maurice, là ça va être très rapide. Donc, enfin, très rapide, c'est relatif à la course, mais c'est la partie la plus rapide qui arrive quand même assez tôt. Donc, qui va créer, de par les chocs, un stress sur le système digestif. Et donc, effectivement, la stratégie nutritionnelle, encore plus pour toi qui as des inconforts, une longue période où tu vas descendre en survitesse, il va falloir que tu aies trouvé, en fait, la bonne stratégie. C'est pour ça que peut-être ça serait vraiment très intéressant de faire un vrai bilan avec, alors peut-être pas Anthony parce qu'il est très pris, mais en tout cas son équipe qui est très compétente pour aller justement trouver où ça cloche. L'apport, je veux dire, des 60, 90, 110, 120. Ça, j'ai envie de dire, c'est un espèce de. On va se réfugier là-dedans
Non, puis ça, c'est pas ta
pour trouver
problématique
une clé.
principale, en fait. C'est pas ça qu'il faut
Ouais,
régler.
oui.
C'est même pas les
Ouais,
grammages. Là, on
exactement.
n'est pas à ce stade.
Ouais,
On est vraiment au
clairement pas.
stade de
Non, non.
l'acceptation et de la tolérance à ce que tu ingères, malheureusement. Et
Ouais.
toi qui mets tout de ton côté, parce que c'est bluffant, je rappelle ton parcours, tu cours tous les jours, tu fais un volume de 100 à 150 km semaine, tu as un coach mental, tu as un entraîneur, etc. T'as pas consulté un gastro-entérologue? Personne t'a conseillé,
Non.
non?
Non, effectivement, c'est un bon point. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai quand même travaillé avec une diététicienne nutritionniste du sport qui
Ouais.
m'avait conseillé au départ pour faire un peu un état des lieux de mon alimentation au quotidien, s'assurer que j'ai assez d'apports énergétiques par rapport à mon volume d'entraînement, qui me faisait aussi un peu la préparation, notamment le plan de nutrition pour la Saint-Élion. Et à côté, j'avais aussi fait un testing à Chamonix avec une structure qui s'appelle Enduro. Que Seb doit connaître, qui est la boîte de Joseph Mestrallet, où j'avais notamment, au-delà de la partie VO2 max, un testing sur le ratio CHO-fat, donc oxydation glucides-lipides par rapport au seuil et à la vitesse, qui m'avait permis d'avoir des données. Mais
C'est intéressant ça.
après, il faut les exploiter, et une fois de plus, c'est pas ça qui m'a aidé à résoudre le problème. Donc.
Ouais.
Non, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est super que tu aies fait ça, mais on n'a pas de réponse. Et là, on parle juste de la course, mais ça se trouve, enfin, je suppose
Ben oui, bien
que
sûr.
tu fais les choses très bien
Dans
en
le
amont, mais
quotidien, peut-être qu'il y a des
peut-être que
choses
tu as
que
des
tu
choses à changer au
tolères pas.
quotidien.
Exactement.
Ouais, c'est possible.
Et en amont de la course, notamment, qu'est-ce qu'elle te dit, la diététicienne nutritionniste, quand tu en parles avec elle de cette problématique?
De tester d'autres choses, d'essayer de changer les produits s'il y a des choses sur lesquelles j'ai une saturation gustative, de réduire un peu les apports de glucides si c'est trop, d'essayer de mieux l'adapter en fonction de telle portion de la course, ça va monter, donc je vais être à des intensités plus basses, donc j'ai peut-être une meilleure capacité, une meilleure tolérance à l'apport, alors que une partie en descente plus rapide, ça va être plus difficile, donc d'essayer d'un peu mieux l'adapter. Donc pour l'instant, c'est vrai que j'ai essayé de le mettre en place. Mais après, peut-être qu'il faut aussi un peu plus de temps, que ça ne fait pas suffisamment de temps que je prends de l'alimentation en course. Et que, c'est pour ça que je suis un peu pour l'instant, dans l'incertitude. Et là, pour la petite histoire, en fait, je vais aller passer 2 mois à la montagne, là, à partir du mois de juillet. Donc je vais passer tout juillet et tout août à Tignes,
Non
donc
mais
à
vraiment,
1100 mètres
c'est
d'altitude.
incroyable, c'est un
Ah
élite. C'est
ouais.
Ah ouais, c'est magnifique.
Et du coup, je voudrais profiter aussi de ces 2 mois-là que je vais faire pour évidemment m'envoyer des grandes bambées en montagne de 5 heures, 6 heures, 7 heures et essayer peut-être de tester des sauts avec de l'allure course au milieu de sortie pour voir un peu en conditions réelles ce que ça peut donner en adaptant.
Ça, c'est la clé aussi, Seb. Tester systématiquement ce qu'on va faire. Ah, oui.
Bah ça c'est vraiment le béaba et quand on dit qu'on le répète, on peut-être on a l'impression de faire de la redondance, mais c'est tellement élémentaire. Et puis là, moi, enfin tu vois, je reviens sur ce que tu disais, je pense que c'est plus un problème de perméabilité intestinale qui semble être ton souci là. Donc effectivement, ce que tu as dit ta nutritionniste, c'est un bon point, mais je pense qu'il faudrait faire des tests pour voir à quel moment et sur ce que ton alimentation qui précède la course. Ouais. Parce que en fait, c'est pas que la course. Moi, et à nouveau, c'est pas mon domaine d'expertise le plus haut, mais j'ai un petit peu d'expérience pour me dire que oui, déjà, le stress que tu induis sur ton organisme physiologique et mécanique, il doit prendre son temps. Tu l'as bien intégré, mais il y a certainement ce laps de temps, mais tu sembles être quelqu'un de posé pour l'accepter. Certainement qu'il va falloir que ton corps s'organise et s'adapte.
Et c'est aussi la magie des RMC Running, c'est une grande communauté de runners. Et si jamais vous avez des conseils à adresser à Romain, que vous reconnaissez dans sa situation et que vous avez réglé ses problématiques, faites-nous suivre des mails, on vous mettra en relation. Si jamais ça peut t'aider, Romain, on ne sait jamais, mais tu peux t'identifier à une histoire et on peut te donner quelques remèdes de grand-mère comme ça qui peuvent pourquoi pas fonctionner. Mais
avec grand plaisir.
Peut-être que la consultation médicale peut t'aider, parce que c'est peut-être un problème général qu'il faut régler à ce niveau-là. Est-ce que tu as testé aussi de renforcer les compléments alimentaires dans les boissons et d'être un peu moins sur ce que tu manges?
Je prends... au quotidien, j'ai quelques compléments alimentaires. Et puis après, pendant la course, je vais... je sais pas si c'est pertinent, mais j'ai des gélules d'électrolytes ou des gélules de caféine qui me permettent de compléter plutôt que de l'avoir directement dans de la nutrition.
Ouais. Donc là aussi, c'est pas quelque chose que tu vas mastiquer, ingérer comme ça. C'est plus du liquide, ça passe dans le liquide, quoi. Donc ça peut.
De toute façon, globalement, je pense que je m'oriente plus vers les choses les plus liquides possibles, parce que moi, je suis pas. Enfin, des fois, je vois sur des ravitaillements des mecs qui s'envoient 4 sandwichs avec du pain de mie dans lesquels il y a du fromage, du jambon, etc., et qui repartent. En ayant un peu mal au ventre, mais sans plus. C'est-à-dire que moi, déjà, si j'arrivais à manger un bout de pain, ce serait le bout du monde, mais j'ai pas de salive, donc je peux pas déglutir, en fait.
Bien sûr.
J'admire les mecs qui peuvent se mettre un pique-nique au milieu de la course. Hein.
Bien sûr. Est-ce que tu as d'autres questions ou tu veux rester vraiment sur cet aspect nutrition, façon de s'alimenter en course et en entraînement?
C'était forcément lié, mais comme je le disais tout à l'heure, étant donné que je vais aller passer 2 mois en montagne avec la possibilité de tester des choses, de faire... et d'avoir des sentiers assez adaptés, quel type de protocole il faudrait mettre en place en parallèle, je comprends bien, de peut-être aller consulter ou me faire accompagner spécifiquement, parce que je pense qu'il y a peut-être effectivement un sujet de perméabilité qui faut peut-être creuser. Mais sinon, c'est quoi les bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a un dosage et on l'augmente un petit peu la semaine d'après? Est-ce que c'est seulement sur les sorties longues? Est-ce que c'est sur les sorties longues avec de l'intensité? Enfin, ça ressemble à quoi un peu les grandes lignes d'un protocole sur la partie plan de nutrition à mettre en place comme ça sur les 2 mois avant la course?
Le protocole que moi je te conseille, comme tu y vas longtemps, et souvent ça c'est inaudible par les gens qui viennent me dire « Seb, je pars en vacances, je vais 15 jours en vacances », et moi je leur dis tout de suite « Ok, pendant les 4-5 premiers jours, tu fais que de la faible intensité et très peu ». Et là ils me disent « Mais non, c'est pas possible, parce que moi j'ai 15 jours de vacances, je veux rentabiliser ». L'altitude a bien des effets positifs pour le sportif. Aujourd'hui, il n'y a plus à démontrer. Les effets sur notre PO naturel là, qui est produit en altitude. Tu vas être à Tignes, moi je vais être juste en face, dans une plus belle station qui s'appelle La Rosière, mais à la même altitude quasiment. Il faut savoir quand même que l'altitude a des méfaits, c'est-à-dire va jouer sur bouffer ton fer, tes sels minéraux, et donc quand on passe autant de temps en montagne, qu'on y va en plus dans une démarche d'entraînement et donc de stress supplémentaire, il faut savoir que c'est un gros stress de vivre et de dormir à une altitude entre 1006 et 2000 mètres d'altitude. Donc le premier conseil, c'est déjà dans ton entraînement, mais je pense que ton entraîneur l'aurait dit, mais du coup je vais le dire pour que ça soit audible de tous les auditeurs qui disent « Tiens, je vais 15 jours en montagne et du coup je vais envoyer de la borne pour m'habituer », la possibilité que ça ait un effet délétère sur l'entraînement est très grand. Et trop souvent, et Maître Yodu n'est pas là, mais il est
friand des stages à Font-Romeu. Moi, les premiers stages que j'ai fait à Font-Romeu, comme un idiot, je suis redescendu, j'étais bien plus cuit que l'effet que j'aurais voulu que ça me fasse.
Et il parle souvent de l'impact sur le sommeil aussi, parce que tu t'en rends pas compte, mais tu dors mal quand tu es en altitude et que tu viens d'arriver, tout à fait.
Ouais. Tout à fait, donc faut vraiment, toi tu as la chance d'y aller sur 2 mois, donc déjà dans ton entraînement, je pense que la première semaine elle doit être ultra light, si tu es à Ting, bah, n'hésite pas à descendre pour aller faire peut-être quelques séances, puis après remonter, c'est ce qu'on appelle le high and low, c'est-à-dire dormir haut et s'entraîner bas, pour qu'on ait un effet, que le corps s'organise en fonction de ça. Et puis, bah, là si on doit parler concrètement de ta problématique, bah, c'est la même chose, c'est-à-dire essayer alors sur des sorties type pacing de course, ton alimentation, ne pas essayer pour autant de trop simuler, parce que moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, que ce soit sur un marathon ou autre, la simulation ça n'existe pas, enfin je suis désolé d'être si catégorique, mais aller faire des 6h et des 8h pour dire ça va simuler la course, ça simule pas. Par contre, est-ce qu'il y a des simulations avec des stress externes qui peuvent créer justement les stress qu'on veut rechercher? Je dirais oui. Donc en gros, c'était de dire oui, pourquoi pas sur tes rando-courses de 5-6 heures, tu peux aller jusque-là. Mais moi, je serais plutôt partisan de te dire, viens, fais une séance de qualité. Puis après, va te balader quelques heures en montagne. Et là, tu auras en fait induit un stress sur ton organisme qui va te permettre de certainement simuler. Mais la simulation par le volume, elle est très limitée. Alors, j'allais dire en plus uniquement peut-être chez les athlètes élites exceptionnels. Là, vu ta caractéristique, on pourrait dire que tu... Moi, je t'apparenterais vraiment à ça. Cependant, comme tu es jeune dans l'activité, je dirais, évidemment, je vais pas réfléchir contre moi là, et j'ai un biais quand je dis ça, mais peut-être que ça ne sert à rien de penser que pendant les 2 mois, tu vas passer à 30 heures d'entraînement pour simuler une éventualité qu'au niveau nutritionnel. Là, en fait, tu fais un pari, et tu fais un pari sur ta santé. Et c'est là où, à nouveau, je reprends ma casquette de coach qui fait attention à sa santé. C'est vraiment super que tu ailles passer 2 mois là-bas et que tu t'y habitues. Mais attention à « je veux induire un stress de simulation qui va faire que je serai plus à même à répondre pendant le fameux travail d'éduc. »
On n'est plus sur des week-end chocs, là, on est sur des mois chocs. Donc, il faut amortir tout ça et… Et rien que conserver le même volume, mais en étant en altitude et en montagne, tu vas progresser. Ouais. Donc, ça n'a rien d'augmenter la charge d'entraînement et le volume. Tout à fait.
Et vraiment conservateur sur le début, surtout pour toi qui a cette problématique-là. Et t'y reste longtemps. C'est moins audible quand je dis ça et que les gens ne passent que 15 jours parce que je leur dis vous bouffez déjà une semaine. Et en vrai, les études elles disent qu'il faut au moins rester 18 jours, mais dans ces 18 jours, il va falloir avoir été vraiment très progressif. Donc voilà pour te répondre en partie en tout cas.
Ouais. Non, mais hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et puis après, j'en avais effectivement discuté avec le coach. Donc je sais que j'ai déjà 10 jours, les 10 premiers jours où j'arrive, où c'est que de la basse intensité, du jog et de la rando course vraiment limitée quoi, avant de réattaquer. Donc voilà. Ça là-dessus, je crois en le process.
Et tu as l'air rigoureux et très carré. Donc à mon avis, tu vas suivre le process qui est prévu par le coach.
Voilà. Je suis tellement nouveau, j'ai une fois de plus, il y a tellement de gens beaucoup plus intelligents que moi et expérimentés que moi autour que je vais pas m'inventer.
C'est la bonne démarche.
Intelligent, je fais confiance aux gens qui m'entourent et c'est pour ça que je vous appelle.
Et puis le but, et on pourra peut-être terminer là-dessus, à moins qu'il y ait une autre question, mais tu vas t'élancer sur une épreuve tellement difficile à la fin du mois d'août, la Trace des Ducs de Savoie sur l'UTMB, que le but c'est de la finir. J'imagine que même toi, secrètement, tu dois avoir un objectif de temps ou quoi que ce soit, mais. Déjà, la finir, c'est un exploit, il faut que tu t'en rendes compte, quel que soit ton niveau. Ça fait 18 mois que tu pratiques la course à pied. Si tu vas au bout d'une épreuve aussi difficile que celle-là, ce sera un exploit réalisé.
Ce que je disais, pareil à mes coachs là, dernièrement, mais à la fin de la Maxi Race, quand je suis arrivé, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, la première chose que je me suis dite, c'est comment je vais faire pour faire la TDS. Et ça ne m'était jamais arrivé.
Bien sûr.
Même quand j'avais fait 134 km à Saint-Jacques l'an dernier, etc., je m'étais vu finir. Mais là, pour le coup, quand je me dis il me reste encore 50 bornes et 4000 mètres de dénivelé, là, pour l'instant, je ne sais pas où ils passent. Je ne sais pas comment je les fais passer et comment je les absorbe. Donc, bon, on va régénérer. Il y a une prépa. Il faut laisser le mental aussi se reposer parce que c'est aussi beaucoup de charges nerveuses.
Bien sûr.
Donc, évidemment, arriver au bout et puis profiter. Avoir de bonnes sensations, vivre un bon moment, etc. C'est toujours ce que je mets en premier quand je fais une course et en étant conscient que si on aligne les sensations, passer un bon moment, suivre un plan de course et être intelligent, à la fin, peut-être que ça amène une performance et un chrono ou un objectif qu'on s'était fixé, mais dans cet ordre-là.
Exactement. Tu prends les étapes les unes après les autres. Bravo. On dirait un discours de footeux. Félicitations. Cette saison avec la Coupe du Monde. Bravo.
Ouais, sinon, je t'aurais dit, on va revenir à l'entraînement et on va travailler dur.
Voilà, exactement. Bon, Romain, merci beaucoup. Tu as une dernière question pour le coach ?
Bon, non, c'est très clair. Ah. Merci pour votre temps, votre écoute et vos conseils. Et puis, il n'y a plus qu'à.
Bah, nous, surtout, on veut te féliciter pour ton investissement et la gestion intelligente de ton entraînement et ta mise en route sur la course à pied, sur le trail. Parce que c'est vraiment tout ce qu'il faut faire. Donc, le volume paraît impressionnant, mais comme tu es encadré, tu peux le digérer. Donc, félicitations, Romain. On espère que tout va bien se passer pour cette TDS. Merci, Romain, d'être venu dans le cabinet de Seb.
Eh ben merci à tous les deux, à bientôt.
Un gros merci à Seb merci Cornet, fondateur d'École de Trail, notre coach trail dans RMC Running. Merci les gars, merci à tous les deux. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.